accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Le financement participatif ne fédère pas que des gentils donateurs. Il devient aussi une alternative crédible aux banques, notamment dans le secteur agricole. En France, 5% des fermes disparaissent chaque année. Des sites comme Bluebees leur permettent de se développer ou de surmonter une mauvaise récolte. Laurent Berthaud a rencontré à Sainte-Scolas-sur-Sarthe, dans l'ouest de la France, un agriculteur sauvé par le crowdfunding.
8h30 à la bergerie du Ménil. Cela fait déjà 2h30 que la machine à traire est en route. Après les 50 chèvres et les 100 brebis, ce sont les 5 vaches de race jerseyaise qui passent à la traite. Une race plutôt rare en Normandie, mais un choix très réfléchi pour Alexander McKean, un Irlandais de 42 ans que tout le monde connaît mieux sous le nom de Sandy.
Les jerseyaises, c'est un race beaucoup plus rustique, il y a moins de charges, moins de frais. Ça donne moins de lait, ça c'est sûr, mais vous avez un lait qui est très riche par rapport à celle d'Holstein. Il y a certaines périodes, on a deux fois plus, nous, de matière grasse, de matière protéique par rapport à Holstein. Et ça se voit dans la crème, la couleur, c'est jour et nuit. Nous, on ne vend pas de lait. Tout ce qu'on produit en chèvre, en brebis et vache, c'est transformé et vendu la plupart en direct.
Depuis qu'il a repris la ferme avec sa femme en 2002, Sandy fait les 2 heures de route jusqu'à Paris pour vendre ses produits sur les marchés des quartiers ouest, fromage et laitage, viande de sa ferme, ainsi que des volailles et de la viande d'autres producteurs locaux. Et cela 3 fois par semaine. Une pratique courageuse, mais pas forcément payante, et qui a plongé l'exploitation dans le rouge il y a 9 ans.
Malheureusement, au début, en faisant des marchés, vous avez du personnel, les frais de gasoil, les frais de place et ainsi de suite. En 2007, on était obligé de faire un redressement judiciaire. Aussi, après 2007, on a eu la crise économique mondiale. Donc, entre ces deux choses-là, quand vous êtes en plan de redressement, les banques, ils ne veulent pas savoir. Couplé avec la crise bancaire, il n'y a aucune possibilité d'emprunter de l'argent pour fait les évolutions.
C'est donc en se débrouillant seul, en empruntant de petites sommes par-ci, par-là, que Sandy réussit à accroître sa production. D'autant qu'en 2015, il rejoint le réseau de distribution de proximité, La Ruche qui dit oui, avec des perspectives encourageantes.
J'ai commencé avec La Ruche, c'était en mars 2015, et puis aujourd'hui on livre 5, 6, 7 ruches, et on va ajouter un autre bientôt dans le 15e à Beaugrenelle. Et en espérant le mois de mars, l'année prochaine, dans un gare SNCF de Montparnasse. Donc on essaie de se préparer pour avoir les produits qui suivent, donc c'est toujours le jeu quoi.
Contraint d'accroître sa production, Sandy sollicite alors de nouveau son banquier.
L'année dernière, ça fait presque un an, on a sorti des bilans qui étaient corrects. On a eu la preuve d'une augmentation de chiffre d'affaires, de rentabilité. Donc j'étais à ma banque pour demander des crédits. On a fait un plan avec notre comptable pour montrer que voilà, c'est un bon investissement. Mais ils ont dit non.
Le berger qui dit oui, la banque qui dit non, c'est ainsi que le site de financement participatif Bluebees a vendu le projet de Sandy aux internautes investisseurs. Un prêt sur 3 ans à 3% d'intérêt. En 3 semaines, Sandy a pu obtenir 42 000 euros financés par 126 contributeurs.
On va agrandir le cheptel encore cette année. On va prendre encore 60 brebis en principe, une trentaine de chèvres et d'autres vaches. Donc ça a mis en route quelque chose bien. On va continuer.
Un prêt qui va aussi permettre de construire un nouveau bâtiment de 600 mètres carrés pour les animaux.
Dans le centre, il y aura un quai d'alimentation, comme ici. Là, j'étais très limité en place. Donc, il est trop petit, en fait. On ne peut pas passer avec le tracteur, donc c'est beaucoup de manipulation à la main. Et puis là, je suis limité en place. Ici, on peut mettre 50 chèvres, maxi. Et là, on met 60 brebis, c'est tout. Et en principe, dans 2 mois, on aura plutôt 120, 130 brebis. Donc, plus j'ai les vaches à loger cet hiver.
Avec un cheptel en hausse, Sandy espère augmenter ses ventes de 15% d'ici la fin de l'année, puis de 25% en 2017. Le prêt lui permet également de financer sa conversion au bio. Le financement via Bluebees lui coûte un peu moins cher que si la banque lui avait prêté de l'argent, avec en plus la satisfaction de rémunérer les souscripteurs à un taux plus intéressant que les 0,75% du livret A.
Et la bergerie du Ménil est l'un des 78 projets financés par Bluebees en France et à l'étranger, y compris en Afrique. Depuis la création du site en 2012, plus d'1,5 million d'euros ont été collectés. Maxime de Rostolan, le jeune président de Bluebees et agriculteur bio de profession, revient sur les origines du projet au micro de Laurent Berthaud.
En fait, l'idée, elle est venue de deux choses. C'est que en 2008 apparaissaient les premières plateformes de crowdfunding qui faisaient vraiment du don, notamment My Major Company ou KissKissBankBank sur des projets de création artistique en particulier. Et l'autre point, c'est que je revenais d'un tour du monde au cours duquel j'avais pu constater que beaucoup d'entrepreneurs, notamment en Afrique, avaient besoin de crédit pour développer des projets et n'avaient jamais l'accord des banquiers. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre ce type d'outils, comme le financement participatif, à destination des entrepreneurs et donc proposer aux citoyens français et étrangers de financer directement via une plateforme des projets de développement.
Et comment on en est venu à l'agriculture ?
C'est un peu un concours de circonstances, parce que le premier projet qui nous a été présenté du Cameroun, donc c'est Jacques-Georges Badjang, qui est un apiculteur, et tous les projets qui nous paraissaient vraiment viables étaient des projets d'agriculture. Et donc assez vite, on a dit, on va se focaliser vraiment sur l'agriculture, mais l'agriculture durable, l'agroécologie, bio.
Donc, dans le domaine de l'agriculture, que ce soit en Afrique comme en France, sur les projets qui sont sur la plateforme, il y a un vrai déficit de liquidité, il y a un vrai problème avec les banques pour les agriculteurs.
Alors, les banques conventionnelles aiment bien financer l'agriculture conventionnelle. Donc effectivement, on voit que souvent les agriculteurs qui veulent développer des agricultures alternatives avec parfois beaucoup moins d'investissement que ces grosses fermes de 1000 vaches ou ces gros tracteurs, ils sont pas considérés par les banquiers, aussi bien en Afrique qu'en France. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble très visible et trop pénalisant pour déployer ce qu'on aimerait, l'agriculture bio sur les territoires. Et donc oui, là, il y a un vrai besoin. Et par ailleurs, on sent que les citoyens, eux, sont tout à fait emballés à l'idée de financer, toujours sous forme de prêt. On fait aussi du don, mais c'est vraiment le prêt qui a lancé la plateforme. On voit que les citoyens sont vraiment très disposés à financer ce genre d'agriculture.
Quel type de projet agricole vous portez justement ?
Bah alors, on propose des projets soit d'installation, soit d'agrandissement. Et donc, on fait des projets aussi bien d'achat de serres ou de tunnels, ou d'achat de cheptels, ou de création d'un bâtiment technique. On fait aussi du préfinancement de récolte. Ça, c'est ce qu'on fait à l'étranger avec des coopératives de commerce équitable. Et donc, c'est des projets un petit peu, enfin voilà, variés, quoi.
Et il y a aussi le coup de main, par exemple, au maraîcher qui voit sa récolte menacée par les inondations.
Effectivement, cette année a été un petit peu compliquée, les agriculteurs en savent quelque chose. Et il y a eu énormément de dégâts à déplorer sur de nombreuses fermes, et notamment dans la région dans laquelle j'ai ma propre ferme, puisque j'ai moi-même une exploitation maraîchère bio, dans la région centre. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont eu des soucis et qui ont perdu une grosse partie de leur récolte. Et donc là, on a lancé un petit peu un appel à solidarité. Et c'est un appel qui a plutôt bien fonctionné, parce qu'on a réussi à réunir plus de 20 000 euros sur ce sujet.
Maxime de Rostolan du site Bluebees. « 2017 sera une année électorale, présidentielle en France, fédérale en Allemagne, avec bien sûr la question du renouvellement ou pas des mandats pour Angela Merkel et François Hollande. Et plus largement, se posera aussi le casse-tête du cumul des mandats. Parce que représenter ses citoyens ne doit pas être une rente de situation. La France a adopté une loi sur le non-cumul qui entrera en vigueur le 31 mars prochain. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site Maïr. Info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors en général, Daniel, la France pratique-t-elle plus que ses voisins le cumul des mandats en nombre et en durée ?
Alors, en termes de cumul des mandats en nombre, oui, c'est à l'heure actuelle incontestable dans la mesure où à l'Assemblée nationale, 82% des députés exercent un autre mandat électif. Or, cette proportion n'est que de 24% en Allemagne, 20% en Espagne, 13% en Italie et seulement 3% au Royaume-Uni. En outre, 45% des députés français sont même à la tête d'un exécutif local ou régional. Cela dit, quand la loi sur le non-cumul entrera en vigueur dans 6 mois, un parlementaire ne pourra plus cumuler son mandat qu'avec celui de conseiller régional, départemental ou municipal. Ce ne sera plus possible d'être à la fois parlementaire et président ou vice-président de conseil régional, de conseil départemental ou encore maire ou maire adjoint d'une commune.
Alors pourquoi cette passion française pour le cumul ?
La notion d'enracinement local est très prégnante en France, seul pays avec le Royaume-Uni, où les députés sont les représentants de circonscriptions. Ce qui veut dire que pour bien connaître et contrôler le terrain, et donc fidéliser ses électeurs, le député a intérêt à avoir une fonction locale officielle. Les promoteurs de la loi considèrent cependant que le fait d'être conseiller municipal ou départemental suffit à répondre à cette exigence.
Et avec cette nouvelle loi sur le non-cumul, la France va-t-elle devenir un pays très rigoureux en Europe ?
Oui, on peut le dire, même si nos amis italiens vont encore plus loin sur un point. Dans la péninsule, il est non seulement impossible de cumuler la fonction de parlementaire avec celle de chef d'un exécutif régional, mais également avec celle de simple membre de cet exécutif, ce qui restera possible en France avec la nouvelle loi. En revanche, un député ou un sénateur italien peut être également maire d'une commune pour peu qu'elle compte moins de 20 000 habitants.
Et quels sont les autres pays qui encadrent strictement le cumul ?
Le cumul est très restreint en Espagne, dans la mesure où le travail de parlementaire précise le statut des députés, doit se faire à temps complet. Ce qui veut dire qu'un député ne peut être maire que si cette fonction ne l'occupe qu'à temps très partiel et qu'il n'est pas rémunéré. En revanche, il y a une passerelle entre la Chambre haute et les assemblées des autonomies, c'est-à-dire les grandes régions comme la Catalogne, le Pays Basque, l'Andalousie, puisque 58 sénateurs sont issus des assemblées régionales. Cette relation particulière entre la Chambre haute et les régions est encore plus marquée en Allemagne.
Oui, vous nous parlez là du Bundesrat et des Länder.
Oui, puisque les membres du Bundesrat, le Sénat allemand, sont issus des gouvernements des 16 Länder qui désignent leurs représentants à la Chambre haute. Ce qui exclut par ricochet que les membres du Bundestag, la Chambre basse, puissent appartenir aux exécutifs régionaux ou d'arrondissement, puisque l'on ne peut siéger à la fois dans les deux chambres fédérales, bien sûr. On peut en revanche être député et membre d'une assemblée régionale, d'arrondissement ou communale. Mais le cas est rare, de même que le cumul député-maire qui est uniquement autorisé si la fonction de maire est bénévole, dans les petites villes donc.
Et quelle est la situation aux Pays-Bas, Daniel ?
Les Pays-Bas présentent un régime plus drastique que l'Allemagne, car si l'on peut être à la fois député ou sénateur et membre d'une assemblée provinciale ou communale, impossible d'être parlementaire et maire. Tout simplement parce qu'aux Pays-Bas, les maires ou les présidents des exécutifs provinciaux sont des fonctionnaires nommés par le roi et ne peuvent donc se présenter aux élections.
Et quant à la reine d'Angleterre, on l'imagine, elle ne nomme pas les maires britanniques ?
Non, mais le Royaume-Uni est un pays singulier du point de vue du cumul des mandats. Sur le papier, peu de mandats locaux sont expressément interdits aux membres de la Chambre des communes ou de la Chambre des Lords, sauf les postes de chef de l'exécutif local, comté ou district. Mais on peut être à la fois parlementaire et maire s'il s'agit d'un poste de maire élu, ce qui est loin d'être le cas général puisque cela ne concerne que 16 villes d'Angleterre. Dans la pratique, très peu de membres du Parlement ont des fonctions locales outre-Manche.
Et puis à la veille de l'année 2017, on va bien sûr vous poser la question de la limitation du renouvellement des mandats.
Sur ce point, la France ne se distingue guère des autres pays européens. Comme dans 17 pays de l'Union, la seule limitation à 2 mandats successifs ne concerne que la fonction de chef de l'État. En ce qui concerne les parlementaires, il n'existe aucune limitation des mandats en vertu du principe que la volonté populaire ne saurait être contrecarrée. En attendant que François Hollande précise sa pensée, la proposition de Bruno Le Maire de limiter à 3 le nombre de mandats successifs de parlementaires est donc innovante. Pas de limite non plus pour les mandats de maire, sauf dans le cas de l'Italie, où le maire d'une commune de plus de 3000 habitants ne peut exercer que 2 mandats consécutifs. Même le renouvellement des chefs de gouvernement n'est pas encadré. Regardez l'Allemagne où la chancelière Angela Merkel se prépare à briguer un 4e mandat en espérant égaler les 16 années au pouvoir du chancelier Kohl.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
All my friends are vegans, take it slow. Wait for them to force feed you tofu.
Nouvelle tribu en vue, les vegans, ils ne sont pas végétariens, ou plutôt ils sont végétaliens à la puissance 10, puisqu'ils refusent aussi tout produit issu de l'animal, comme le cuir ou la soie, ou tout produit testé sur les animaux, comme les cosmétiques. Le phénomène prend de l'ampleur en Suède. Le dernier grand salon vegan de Stockholm a attiré des milliers de visiteurs. Sébastien Orion s'y est rendu pour nous.
Je suis venue ici car j'étais curieuse. Et je voulais savoir ce qu'était la nourriture végane. Je suis devenue végétarienne il y a peu de temps. Je suis encore une débutante. Et puis une collègue m'a parlé de ce salon.
En Suède comme ailleurs, la diffusion de vidéos choc filmées en caméra cachée dans différents élevages du pays a créé une véritable prise de conscience. Molin Gustafsson est la présidente de Jullet Alliansen, qui à l'image de l'association L214 en France, lutte en faveur du droit des animaux. Elle est à l'origine de cette 10e manifestation végane.
En fait, ici, sur une journée, le végane devient la norme. Et nous permettons à toutes les associations et à toutes les entreprises qui travaillent sur ces questions de se présenter sous un jour positif. Il s'agit d'encourager ce mouvement incroyable qui a des répercussions sur toute la société par différents biais. Les visiteurs peuvent ici questionner les exposants, écouter les conférenciers. Nous avons juste en ce moment derrière nous un panel d'experts qui débat. Et enfin, il s'agit surtout de goûter des aliments. Nous avons installé un restaurant au centre du forum et une rue entière avec des food trucks qui proposent de la nourriture végane.
Outre la présence d'associations internationales comme les Anglais d'Animal Equality, qui à l'aide de casques à réalité virtuelle proposent de se mettre à la place d'animaux en batterie, l'accent est mis sur la volonté de changer les habitudes quotidiennes. Petronella Walder travaille depuis 3 ans pour Vegonormen, une association qui se rend dans les écoles et les maisons de retraite pour encourager enfants et vieilles personnes a diminué progressivement la consommation de produits carnés ou laitiers.
Il s'agit en fait d'arrêter la viande un jour par semaine. Ça peut aider à faire comprendre qu'on peut tout de même faire un bon repas et aller plus loin à partir de ce constat. Les gens sont réticents au changement, nous sommes ainsi faits. Mais si quelqu'un leur dit « réfléchissez une seconde » ou « vous allez manger quelque chose que vous n'avez jamais essayé », si on commence par un jour par semaine, c'est gagné, car ça montre que le changement est possible.
L'engagement vegan s'étend aussi à l'exclusion de certains produits. Cosmétiques, vêtements en laine, soie et cuir sont ainsi bannis. Maria a senti le marché naissant. Elle a créé sa marque Korkai et l'affluence sur son stand l'a ravie.
J'importe des produits en liège du Portugal, des sacs, des chapeaux, des bijoux et des porte-monnaies, entre autres. Et ça marche super bien, oui. J'ai commencé il y a 2 ans et demi avec une boutique en ligne et maintenant j'ai un vrai magasin. C'est vraiment sympa de venir ici et de se présenter car les gens peuvent toucher, voir que c'est du solide, que ça ne se désintègre pas, que ça résiste à l'eau et surtout que c'est durable.
Ici, nombreux sont les exposants conscients que le marché du vegan va croître rapidement. Parmi eux, Victor Nilsson, plus connu sous le nom du pseudo Vic de Vegan sur Instagram, est cuisinier de formation. Il est convaincu qu'il ne s'agit pas que d'une mode.
C'est de plus en plus commun. En 2015, c'était vraiment incroyable. J'ai vu un nombre croissant de gens devenir vegan. Vous pouvez voir aujourd'hui ici le nombre d'aliments disponibles avec des nouvelles marques qui apparaissent et qui proposent toujours plus d'alternatives à la viande, comme des produits à base de haricots par exemple. Ça ressemble à de la viande pour que les consommateurs aient la sensation d'en manger, sauf que désormais, ils ne le font plus au détriment des animaux. Donc, ça ne fait que croître d'année en année et j'en suis convaincu, nous deviendrons tous véganes, même si ce sera un processus lent.
Si les Suédois avaient déjà une longue tradition végétarienne avec 10% de la population, les citadins branchés de Stockholm, Göteborg ou Malmö poussent désormais ce nouveau mode de vie. Il serait déjà plus de 5% dans la capitale.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe. À demain.